Dans cette édition, on vous reparle de la tour des juges, puisque la Fédération internationale de surf se mêle à la polémique et puis prudence à l'approche des fêtes, les virus circulent et la pluie va persister. Et ce journal est présenté par Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Harry, bonjour à toutes et à tous.
Et ça va vous étonner, mais on reparle encore de la tour des juges.
Eh oui, ça faisait longtemps, il ne se passe pas un jour sans qu'un élu, un militant, un sportif ou un acteur des Jeux Olympiques ne prenne position au sujet de la très polémique tour en aluminium. Alors les travaux d'installation ont débuté, et cette fois c'est la Fédération Internationale de Surf qui s'en mêle, l'ISA, qui s'est associée à l'organisation de l'épreuve aux côtés du Comité Olympique, nous apprend ce matin avoir proposé au pays de se passer de la tour, ce que le pays a refusé. L'ISA explique avoir proposé au gouvernement et à Paris le 9 décembre de juger le concours à distance avec des images en direct prises depuis la terre, l'eau et avec des drones. Une option qui avait déjà été soulevée par les opposants au projet mais qui n'avait jamais été mise en avant ni par Paris 2024 ni par le pays, notamment pour des raisons techniques ou de qualité d'image. Pourtant, la Fédération internationale croit en cette idée et révèle même avoir présenté deux solutions aux autorités. La première consistait à installer la nouvelle tour en aluminium mais à terre tout en déployant des caméras sur le récif, ce qui aurait permis aux juges de bénéficier du même angle de vue que depuis l'ancienne tour en bois. La deuxième option a ensuite été présentée dans l'hypothèse où pour des raisons techniques ou environnementales, il n'aurait pas été possible de déployer ces caméras sur le récif. Dans ce cas, l'ISA proposait d'utiliser depuis la terre des caméras adaptées aux compétitions sportives avec des zooms puissants et des mécanismes de stabilisation. Ces caméras auraient été déployées depuis le rivage sur des grues d'une vingtaine de mètres. Mais le gouvernement polynésien a ensuite décidé d'aller de l'avant avec le projet de construction de la nouvelle tour en aluminium sur le récif. C'est ce qu'écrit l'ISA ce matin, qui se dit prête à travailler avec toutes les parties prenantes dans le meilleur intérêt du sport, de l'environnement et de la communauté locale.
Et puis une autre organisation s'est exprimée au sujet de la tour la nuit dernière.
Il s'agit de l'UICN, l'Union Internationale de Conservation de la Nature, l'un des plus importants réseaux mondiaux de protection de l'environnement. Deux de ses responsables nationaux ont signé une tribune dans le journal Le Monde, dans laquelle il constate que le projet de Tour des Juges n'a jamais fait l'objet d'études d'impact environnemental. Alors ça n'est pas en soi une nouveauté. La tour, structure temporaire et marine, ne rentre pas dans les critères du Code de l'environnement pour avoir besoin d'une telle étude préalable. Mais justement, l'UICN explique que les mésaventures du site de surf olympique doivent pousser les autorités à réformer les règles. Écoutez.
Oui, c'est ça. En fait, le Code de l'environnement, il n'y a que 3 pages finalement sur les études d'impact. C'est très très léger. Dans d'autres pays et même en France, il y a tout un pavé en fait sur la codification des études d'impact qui est beaucoup mieux carré ailleurs pour justement éviter ce type de situation. Parce que l'évaluation environnementale, pour rappel, c'est vraiment un processus qui vise à intégrer l'environnement dans l'élaboration des projets dès le tout début des réflexions. Donc elle permet aussi de garantir l'information, la transparence de l'information et la participation du public dès le début. Et là, visiblement, c'est ce qui a manqué et c'est ce qui continue à manquer sur beaucoup de projets qui sont menés en Polynésie.
Anne Caillot, responsable outre-mer de l'UICN basée en Polynésie et qui fait partie de ceux qui ont suggéré de cette tribune aux responsables parisiens de l'organisation. Les deux signataires, la présidente du comité français et le président du groupe d'experts outre-mer, expliquent que le cas de la tour est symptomatique d'un manque d'encadrement environnemental des projets au Fénoua. Parmi les exemples cités, toujours côté Jeux Olympiques, le récent remblayage du Domaine Rose, une zone humide qui va accueillir une partie du village olympique au PK0, ou encore la rénovation de la marina de Teahupo, qui a bien fait l'objet d'une étude d'impact, mais qui, dans une certaine indifférence, va détruire beaucoup plus de corail que la tour des juges. Bref, il faut renforcer les règles du code de l'environnement, et ce, dans tous les domaines. L'UICN interpelle notamment sur la question de la protection des ressources en eau.
Ce qu'on souhaiterait, nous, et ce qu'on pensait qu'il serait peut-être important à envisager, c'est d'adopter une loi sur l'eau qui permette d'éviter des bétonnages de tronçons de rivière au détriment des écosystèmes comme on en voit aujourd'hui. Et ce qu'on pourrait suggérer, c'est qu'avec l'adoption de cette loi sur l'eau, on pourrait aussi créer un établissement qui soit dédié comme un office de l'eau ou des agences de l'eau, comme il y en a en France, qui permettrait de coordonner toutes ces actions d'intervention et de gérer les conflits d'usage pour mieux préserver les rivières et les milieux aquatiques qui aujourd'hui, malheureusement, sont en train d'être détruits.
Voilà, l'Union internationale pour la conservation de la nature qui interpelle donc le gouvernement et les élus polynésiens, mais aussi le CESEC qui pourrait s'auto-saisir du dossier et s'inspirer, pourquoi pas, des législations métropolitaines ou australiennes pour redresser la barre en matière d'environnement.
À Hitiya, la circulation est rétablie en alternance au PK 43.
Oui, souvenez-vous, après l'éboulement survenu fin juillet, le pays avait entrepris des travaux de sécurisation d'un virage à partir de fin octobre pour une durée de 22 mois. Ils ont nécessité une fermeture partielle de la circulation en journée. Et donc, depuis le 23 octobre, la route était totalement coupée de 8h30 à 15h30 les lundis, mardis et jeudis et de 8h30 à 11h les mercredis et vendredis. Et bien, conformément au calendrier prévu, il est de nouveau possible d'y circuler à toute heure depuis ce mardi, mais en alternance sur une voie, comme c'est le cas depuis le début du chantier, en dehors des horaires de travaux. Seulement, la poursuite des travaux de purge de la montagne nécessitera cependant une seconde période de fermeture partielle de la route. Ce sera du 15 janvier au 15 mars 2024, aux mêmes horaires que la période précédente, c'est ce que précise la présidence. La période s'étendra donc du 15 janvier au 15 mars.
La grève continue dans les dépôts pétroliers.
Et oui, le mouvement entamé jeudi par la CSIP dans les dépôts de la STDO, de la STDP et Somstad, des sociétés rassemblant plusieurs entreprises d'importation et de distribution, il n'a toujours pas été levé. Si le syndicat de Cyril Le Gaillic promettait de ne pas perturber l'approvisionnement du pays au début du conflit, la tension est montée ce week-end avec l'arrivée à quai d'un pétrolier censé alimenter notamment les réseaux Total et Mobil et certains approvisionnements des îles. Les grévistes n'ont pas pu légalement s'opposer au déchargement du navire, mais ils ont veillé à ce qu'aucun renfort ne soit déployé pour aider le personnel non gréviste. Les opérations de transfert des hydrocarbures depuis le pétrolier jusqu'aux cuves de Fareouté ont pu commencer, mais de façon beaucoup plus lente qu'à l'accoutumée. Pas de risque de pénurie dans les stations toutefois, mais d'après Polynésie la Première, certaines îles s'inquiètent de leur approvisionnement dans les prochaines semaines, notamment au Tuamotu. Pendant ce temps, aucune avance n'est à noter sur le préavis de la CSIP qui demande entre autres des revalorisations salariales pour absorber la hausse du coût de la vie.
On vous parle d'un chiffre désormais.
Oui, 3800, c'est le nombre de créations d'entreprises en 2022 au Fénois, d'après les dernières données de l'ISPF. Un chiffre qui est en augmentation de 3% par rapport à l'année précédente, ce qui amène à 35 000 le nombre d'entreprises actives dans l'industrie, la construction, les commerces ou les services. Mais à noter que 90% de ces structures sont en fait des patentes individuelles et que la quasi-totalité des entreprises, quelle que soit leur forme, lancent leur activité sans aucun salarié.
On parle santé avec cet appel à la vigilance sur les virus à l'approche des fêtes.
C'est ce que demandent les autorités sanitaires qui constatent une circulation importante des derniers variants de Covid. Malgré un fond d'immunisation naturelle ou par la vaccination, les contaminations s'enchaînent et une dizaine de personnes étaient hospitalisées la semaine dernière du fait de la maladie, et notamment en raison du variant JN1. Il a été détecté il y a plusieurs mois aux États-Unis avant de faire une entrée fracassante dans les statistiques épidémiques françaises à partir du mois d'octobre. Bourré de mutations alors qu'ils ne le rendent pas plus dangereux mais qui renforce sa contagiosité. Cette forme de Covid, parfois surnommée Pyrola, est aussi présente au Fénois depuis plusieurs semaines, mais difficile pour les autorités de quantifier avec précision sa circulation. C'est ce que souligne le docteur Henri-Pierre Mallet, il est médecin épidémiologiste pour la RAS.
On a des indicateurs indirects qui nous confirment que l'épidémie est toujours en cours, on est dans une vraie vague épidémique qui est la première aussi importante en 2023. Pour la semaine dernière, les premiers résultats qu'on a, mais qui ne sont pas consolidés, montrent qu'on a encore une petite dizaine d'hospitalisations, probablement le même nombre à peu près de cas confirmés, mais encore une fois, ça c'est très compliqué à déterminer. Mais on voit que 40 à 50% des tests qui sont réalisés sont positifs en Covid. Donc ça montre bien qu'il y a une circulation importante de ce virus, à côté probablement d'autres virus qui commencent également à augmenter d'ailleurs.
D'autres virus comme la grippe saisonnière déjà présente au Fénois et que dont les vacanciers de fin d'année pourraient ramener de nouvelles souches. Un cocktail épidémique explosif pour les fêtes de fin d'année. Il s'agit donc de se protéger, masque, hygiène des mains et même isolement pour éviter de toucher des personnes vulnérables. Des personnes pour qui les rappels de vaccins Covid et grippe sont plus que jamais conseillés. Et autre question importante pour ces prochains jours, faut-il honorer les invitations au réveillon quand on se sait malade? Une question de bon sens et de cas par cas pour le docteur Mallet.
C'est toujours du cas par cas et une responsabilité individuelle de bien comprendre. Voilà, le micro il va se transmettre par l'air dès que je parle, que je tousse. Ben faut faire en sorte que les autres personnes ne l'attrapent pas. Donc, on garde la distance, on met le masque, on aère. Et au pire des cas, effectivement, et ben malheureusement, on reste chez soi exceptionnellement pour ne pas mettre en danger la mamie toute fragile.
Henri-Pierre Mallet, médecin épidémiologiste pour la RAS, il répondait à Charlie René.
Les fêtes, justement, qui vont avoir lieu avec un mauvais temps.
Et oui, Météo France observe actuellement une bande particulièrement pluvieuse, voire orageuse, qui se met en place dans les îles de la Société, une grande partie des Tuamotu ainsi qu'au Gambier. Ce mauvais temps est prévu pour persister jusqu'en fin d'année, c'est ce que précisent les prévisionnistes. Il faut donc s'attendre à un temps plus pluvieux que la normale sur cette période, avec par endroits d'importants cumuls de pluie. Mais pas de risque de cyclone pour l'instant, et les Marquises et les Australes devraient rester à l'écart de ce mauvais temps. Toutefois, les cumuls devraient être très importants au Raromatei et aux îles du Vent d'ici le nouvel an. Il est toutefois trop tôt pour identifier les zones qui seront les plus impactées par ces intempéries au sein des archipels concernés. Voilà ce que nous disait Météo France vendredi. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Le retour de l'actualité à 16h avec le flash de la rédaction.